Chapitre 12. Le temple d'Orichalc. Une bouffée d'air froid nous frappa en plein visage. Il régnait une véritable température de cave dans la nouvelle salle où nous venions d'entrer. Pierre Benoît, l'Atlantide. Nous n'avons pas eu le temps de nous inquiéter. Le Zod a surgi au sud, passant le cap d'Akrotiri et venant droit sur nous. Quelle idée avait pris à Claire de partir de l'autre côté de l'île, pendant que nous étions sous l'eau? D'accord, elle avait dû se dire qu'on ne reviendrait pas avant un bon moment. Mais quand même, elle aurait pu rester là, tranquillement, dans la crique la plus proche, en surveillant de temps en temps si elle ne voyait pas émerger nos parachutes. Charlie semblait aussi stupéfait que moi. Ça ne ressemblait pas à Claire de se comporter avec autant de désinvolture. À peine le Zod arrivé à notre hauteur, il lui a crié « Bah alors, tu étais où? Parti faire du shopping? C'est quoi ce plan de te barrer pendant qu'on est au fond? Et si on avait eu un problème? J'ai un truc incroyable à vous raconter. Faites-moi passer vos blocs. Il faut qu'on aille à Akrotiri. » « Quoi? Qu'est-ce que tu... Maniez-vous, vos recycleurs !» Elle devait être vraiment énervée parce qu'elle les a soulevés comme un rien pour les poser à bord du Zod. Pourtant, chacun devait peser dans les 25 kilos. Nous avons grimpé à bord et j'ai remonté la chaîne, ramenant les deux blocs d'air et l'ancre. Nous étions tellement surpris par l'attitude de Claire que nous n'avons même pas essayé de lui raconter notre rencontre extraordinaire avec le mégalodon. Nous avons ôté nos combis et nos couches de vêtements. Une fois à nouveau en short, nous nous sommes assis face à face, Charlie et moi, nous faisant passer une bouteille de l'outraki pour nous désaltérer un peu. J'ai fini par me lancer. « Bon, puisque notre plongée n'a pas trop l'air de t'intéresser, tu pourrais peut-être nous raconter ton après-midi à la plage. » « J'ai suivi Kyros. »«
Tu as quoi ?»«
J'ai suivi Kyros. Je ne l'ai pas trouvé net, ce mec, à foutre son nez partout au port quand on chargeait le Zod, et encore moins à venir mater pendant que vous vous prépariez à plonger. » Dès que vous avez disparu sous l'eau, il est allé droit sur l'archéologue en faisant des grands gestes. Quel genre de gestes? J'ai cru une seconde qu'il lui faisait simplement signe de l'attendre, mais en fait, il semblait furieux. L'archéologue a fait demi-tour et s'est mis à courir. Il a disparu derrière la falaise. Kyros est revenu sur ses pas, en courant aussi. Il est passé derrière un rocher et j'ai entendu une voiture démarrer. Ça devait être la sienne, je suppose. Je me suis dit qu'il allait probablement à Akrotiri pour retrouver l'archéologue. Par la mer, j'avais une chance d'arriver à peu près en même temps que lui, vu l'état des routes. Oui, d'accord, c'était un peu léger de vous planter là, mais comme vous n'alliez pas remonter avant plusieurs heures, j'ai tenté le coup, voilà. De toute façon, je suis revenu juste au moment où vous êtes ressorti. Alors on ne va pas en faire un flanc, ok? Bref, j'arrive à la plage d'Akrotiri, et là, coup de bol. Je le vois descendre de sa voiture devant une maison un peu en retrait. Il ne m'a pas vu. Il est entré direct. J'ai échoué le Zod sur le sable et j'ai couru jusqu'à la maison. J'ai pu m'en approcher sans problème. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. J'ai entendu des éclats de voix. J'ai reconnu la voix de l'archéologue. Il geignait. Kyros était en train de l'engueuler. Mais je ne comprenais pas un mot sur trois tellement il parlait vite. Sauf qu'il répétait souvent les mots « édolo » et « métallio »,« effigie » et « médaille », a dit Charlie. « Exactement. Et aussi un nom que je ne connaissais pas, mais qui n'est pas difficile à comprendre. « Ophitea ».« Vous pouvez traduire pour moi » ai-je demandé. « Ophis, le serpent. Théa, la déesse. La déesse au serpent. » Ça a duré un bon moment. Et puis, tout d'un coup, ils ont cessé de parler. Je me suis un peu penché pour voir par la fenêtre. Ils n'étaient plus là. Il n'y avait plus un bruit. J'ai mis une bonne minute à comprendre qu'ils avaient dû quitter la maison par l'arrière. J'ai fait le tour et j'ai eu tout juste le temps de les voir disparaître au bout d'une petite ruelle. Pas besoin d'être Nestor Burma pour comprendre où ils allaient. Le champ de fouilles.
Oui.
Et bien sûr, tu les as suivis.
Oui.
Sinon, à quoi ça aurait servi que j'arrive jusque-là? Une chance qu'il n'ait pas refermé le portail d'accès derrière eux. Ça m'a évité de sauter par-dessus. Je ne pense pas que ça t'aurait retenu de toute façon.
Certainement pas, en effet. Bon, alors, je commence à m'engager dans l'allée centrale et les ruines de maisons. Plutôt moche, d'ailleurs. Un vrai foutoir, la façon qu'ils ont eu de déblayer ça en laissant des échafaudages partout. C'est presque aussi désastreux que le palais de Minos à Héraclion. On dirait plus un terrain vague couvert de gravats qu'un site archéologique. Et ce toit en métal, on se croirait dans un immense entrepôt à l'abandon. Tout juste s'il n'y a pas des tags partout. Tu ne veux pas sauter la visite touristique, s'il te plaît? Ok, ok. Bref, je les ai suivis un petit moment en restant suffisamment loin pour être hors de vue. Comment tu savais où ils allaient si tu ne les voyais pas? Eh, tu me laisses raconter, oui? Il suffisait d'aller dans la direction de leur éclat de voix. C'est pas sorcier. Sauf qu'au bout de quelques minutes, il s'est passé un truc vraiment bizarre. Je les entendais encore, mais impossible d'aller plus loin. J'étais à la limite de la zone déblayée. Et devant moi, j'avais toute la partie du site qui est toujours ensevelie. Pas moyen d'avancer plus. Pourtant, ils étaient là. Tout près. J'avais beau chercher, je ne voyais pas par où ils avaient pu passer. Je ne vous dis pas à quel point je me sentais frustré. J'étais là, face à une paroi de pierre ponce, et juste de l'autre côté, je les entendais parler. Impossible de comprendre leurs mots. Mais par contre, j'étais certaine que Kyros était menaçant, et l'archéologue terrifié. Et puis soudain, un cri horrible, puis un autre, puis plus rien. Silence total. J'ai eu très envie de me barrer, en courant le plus vite possible. Mais je n'en ai pas eu le temps. À 3 mètres sur ma gauche, un gros bloc de basalte posé contre la paroi s'est mis à bouger lentement en raclant le sol. Un passage secret? Oui. En une demi-seconde, je me suis dit que les cris que j'avais entendus, c'était l'archéologue qui venait de se faire tuer. J'ai vraiment flippé. Aucune envie de me faire courser par Kyros. Je me suis jeté à plat ventre derrière un tas de planches. Je pouvais regarder au travers. Effectivement, c'était bien Kyros qui ressortait. Il avait du sang partout sur sa chemise. Et il avait l'air vraiment effrayant, je peux vous le dire. Il est parti d'un pas rapide, et pendant ce temps, le bloc de basalte s'est remis en place tout seul. Je ne sais pas combien de temps je suis resté planqué là, sans oser bouger. Au bout d'une éternité, j'ai fini par me décider à ressortir du site, complètement morte de trouille. Puis, j'ai couru au bateau et je suis venu vous chercher. C'est pour ça qu'il faut qu'on y retourne. L'archéologue doit toujours être là-bas. Il faut trouver un moyen d'ouvrir le passage et voir s'il est encore vivant ou pas. Il faut surtout prévenir les flics, non? Oui, bien sûr. Mais bon, je n'en sais rien. En fait, de ce qui a pu se passer hors de ma vue. Si on ameute les flics pour rien... Attends, tu as entendu crier l'archéologue et tu as vu Kyros ressortir seul et couvert de sang quand même. C'est-à-dire... Quoi? C'est ce que tu viens de dire, non? Oui. Mais sur la route pour venir vous prendre, je me suis un peu calmé. Et je me suis dit que l'archéologue, je ne l'ai pas vraiment vu aller derrière le mur de basalte. Je suis juste certaine d'avoir entendu crier, et il me semblait bien que c'était sa voix. Mais de là à appeler les flics, tant qu'on n'est pas sûr qu'il s'est vraiment passé autre chose qu'une simple engueulade, avec peut-être quelques baffes... De toute façon, ça y est, on arrive à la plage de la Crotiri. Bon alors, on y va? Bah oui, bien sûr, pas de problème. On a tout le temps. Maintenant qu'on a fini notre petite plongée, on peut bien aller faire un tour pour visiter les fouilles. Totalement insensible à l'ironie de ma réplique, Claire a répondu. Tiens, au fait, votre plongée, ça s'est bien passé? Oui, oui, aucun problème, on te racontera. Nous avons échangé un regard entendu. Inutile de lui dire maintenant qu'on avait croisé un requin préhistorique, grand comme un court tennis. Elle n'y ferait même pas attention. Une fois sur la plage, elle nous a dit de prendre nos torches. Nous avons marché jusqu'à l'entrée du site. Le portail était toujours ouvert. Nous sommes arrivés jusqu'à l'endroit où devait se trouver le fameux passage secret. Il doit forcément s'actionner de façon simple, quand on en est proche, a dit Charlie. Et en même temps, il ne faut pas que l'ouverture puisse être déclenchée par hasard, si quelqu'un passe par là. Ça me rappelle la crypte sous la maison de Sibylle. Il y avait aussi un accès dissimulé derrière une grosse pierre, également volcanique, d'ailleurs. et il fallait actionner deux leviers en même temps pour ouvrir ou fermer le passage. Oui, ça m'a l'air d'être la solution la plus adéquate en effet. Pour la crypte, il y avait en tout 4 leviers, et seulement 2 d'entre eux contrôlaient l'ouverture. Toutes les autres combinaisons étaient fatales. Elles libéraient des tonnes de pierres prêtes à ensevelir les intrus mal informés. Il pourrait bien y avoir un piège ici aussi. Le problème, c'est qu'on le saura seulement une fois le passage ouvert. Ouais, bon, où peuvent bien être les clés qui ouvrent ce verrou ? Le mécanisme permet de bouger ce bloc de basalte. Il a donc été mis en place après l'ensevelissement de la ville par la lave. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas être sur les ruines, mais quelque part sur la coulée elle-même. Peut-être sur la partie mobile, justement. C'est forcément là, sous nos yeux. Comme dans la lettre volée d'Edgar Poe. La meilleure cachette, c'est en pleine vue, puisque personne ne peut imaginer qu'un bloc de pierre aussi énorme puisse dissimuler un passage et bouger comme un rien. Nous nous sommes approchés et avons commencé à appuyer un petit peu partout où se trouvaient des creux ou des protubérances. En vain. Pendant que Claire et Charlie persistaient, j'ai reculé de quelques pas, un peu dépité. Et là, j'ai compris. À gauche du rocher, il y avait un trou d'une dizaine de centimètres de diamètre, à environ 1 mètre du sol. Et à droite, il y en avait un second, identique. Ça ne pouvait pas être un hasard. L'astuce pour éviter une ouverture par inadvertance était qu'il fallait être 2 pour la déclencher, un de chaque côté. J'ai expliqué ma trouvaille à Charlie et à Claire, qui ont fouillé les trous de la main. Ils ont senti quelque chose bouger quand ils ont appuyé doucement en même temps. Bingo ! La porte de pierre s'est mise à glisser lentement. Je suis allé ramasser plusieurs madriers, ceux derrière lesquels Claire avait dû se cacher, et je les ai mis en travers de l'ouverture. Si le passage se refermait tout seul, une fois que nous étions à l'intérieur, pas question de prendre le risque de rester coincé là. À tout hasard, nous avons demandé à Claire d'attendre dehors pour faire le guet. Et nous sommes entrés. La première chose qui m'a frappé, ça a été le froid. Nous avons allumé nos torches, découvrant une immense salle voûtée, parfaitement circulaire. Il s'agissait de toute évidence d'un temple. Des statues d'environ 3 mètres de haut, sans doute des divinités, étaient disposées sur tout le pourtour. Les parois étaient recouvertes d'un métal que je n'avais jamais vu. Il ressemblait à de l'or, sauf qu'il projetait des reflets rouge sombre. Au centre exact de la pièce se trouvait un autel, fait d'une pierre noire vitreuse que je n'eus par contre aucun mal à reconnaître. De l'obsidienne. Un bas-relief était gravé sur sa façade. Il représentait Ophitea. Le plateau, massif, était creusé d'une calotte d'environ 40 cm de diamètre sur 10 de profondeur. Elle était sans doute destinée à recevoir des offrandes. Nous avons entendu un gémissement étouffé. L'archéologue gisait au sol, derrière l'autel. Il semblait avoir été roué de coups. Kyros lui avait fait passer un sale moment, quelle qu'en soit la raison. Nous l'avons aidé à se redresser. Comment vous sentez-vous ?
Ça va.
Pourquoi Kyros vous a-t-il fait ça ?
Vous connaissez le maître ?
Le maître ? Quel maître ?
Il voulait la médaille d'Ophitea. Celle que vous avez trouvée, il me l'a prise.
Pourquoi l'appelez-vous le maître ?
Hein ? Non, vous m'avez mal compris.
Ne vous foutez pas de nous. Nous sommes 2 à vous avoir entendu appeler Kyros Almétis le maître. L'archéologue semblait reprendre rapidement ses esprits et sa morgue. Il nous a jeté d'un ton méprisant.
Bien sûr ! C'est ce que veut dire Kyros en grec. J'ai traduit, c'est tout.
Il a raison, m'a dit Charlie. Kyros vous a pris la médaille, ai-je poursuivi. Bon, écoutez, ce qui se passe entre lui et moi, ça ne vous regarde pas.
Mais enfin, il vous a tabassé. Et si nous n'étions pas venus vous tirer de là, vous seriez peut-être resté enfermé sans pouvoir...
Vous êtes sur un site de fouille interdit au public. Allez, sortez immédiatement ou j'appelle la police.
Quoi ?
Ai-je hurlé. Laisse tomber, m'a dit Charlie. Viens, on se barre.
Attends, mais c'est l'alu !
Viens, je te dis. Tournant le dos à l'archéologue, il m'a fait signe de me taire. Nous sommes revenus vers la sortie. Claire m'a vu surgir en premier, mâchoire serrée. Puis Charlie, qui l'a tiré par le bras, ne répondant à son regard interloqué que par un bref « plus tard ». Nous avons marché à grands pas jusqu'au bateau, sans dire un mot. Une fois en mer, Claire a vite explosé.
« Alors, il est mort ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ?»«
Non, il n'est pas mort. Et il nous a jetés, » a répondu Charlie.
« Bon, que sait-on exactement ? »
a-t-il ajouté en se tournant vers moi. L'archéologue a une peur bleue de Kyros. Il a un temple caché dans les ruines d'Akrotiri. L'effigie d'Ophitea est gravée sur l'autel. Il n'y avait pas une seule trace de poussière dessus, ni sur les statues d'ailleurs. Kyros a tabassé l'archéologue pour lui piquer notre médaille. Soit parce qu'il fait du trafic de vestiges antiques, soit parce qu'elle a une valeur religieuse pour lui. Et il y a une autre gravure relative à Ophitea, à plus de 100 mètres de fond, là où nous avons plongé.
Ah oui, et un mégalodon aussi,
ai-je rajouté.
Un quoi ?
A dit Claire. Nous lui avons raconté notre plongée, en omettant le moment où le mégalodon a tenté de nous dévorer, bien sûr.